Bonjour.
Bonjour.
Maïté, quel est le menu du jour?
Quel est le plat du jour?
Là, aujourd'hui, le plat du jour, c'est le poulet basquez. Hein?
J'ai un problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui sont végétariens.
Mais on peut faire un poivron à la basquez.
La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon Christian?
Non.
Tout ce qui se passe m'intéresse autour de mon industrie, qui est la manière de se nourrir.
Plat du jour, le podcast qui parle des actualités du business de la bouffe.
Avec Daniel Coutinho
et Philibert Chambre.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui, dans une autre vie, livrait des pizzas à Barcelone. Bonjour Daniel.
Ouais, bonjour Philibert. En effet, j'étais livreur chez Telepizza à Barcelone en 2001, mais ça fait beaucoup de temps et voilà, je me sens un peu vieux là.
On les salue s'ils nous écoutent. Alors Daniel, aujourd'hui nous allons parler livraison, justement livraison de repas, car le plat du jour est Resto.Paris, le nouvel acteur de la livraison de repas à domicile et au bureau qui se veut durable et éthique, donc on va y revenir. Il a été lancé il y a tout juste quelques jours par Ecotable, Coopcycle et Olvo. Et pour en parler, nous sommes avec Ariane Delmas et Leroy Lévy. Bonjour Ariane, bonjour Leroy.
Bonjour.
Alors avant de justement que vous nous expliquiez le concept de Resto.Paris, je vous laisse vous présenter chacun, présenter vos activités qui sont à l'origine du projet. Donc on peut commencer par toi Ariane.
Moi je suis Ariane Delmas, je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise Les Marmites Volantes, qui est une entreprise de restauration engagée, qui a aujourd'hui 4 restaurants et un laboratoire de production dédié à une activité de livraison.
Ils sont où les restaurants?
Alors les restaurants, l'historique il est à Jaurès dans le 19e. Ensuite on a ouvert à Montreuil en 2015 et puis en début 2020, donc fin janvier, on a ouvert à Pigalle dans le 18e et puis qu'on a refermé assez vite d'ailleurs. Et on a ouvert le 4e qui est en fait un petit café où il n'y a pas de cuisine de production mais une cuisine d'assemblage au sein de la ressourcerie qui a ouvert dans la Goutte d'Or au mois de juin, qui est un petit café marmite volante. D'ailleurs collé aussi à un atelier de vélo solidaire porté par Solicycle.
Et du coup, quand tu dis engagé, pour toi, engagé, c'est dans quelle dimension?
Alors,
c'est un vaste mot aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Alors, en plus des 4 restaurants, on a un laboratoire de production parce qu'on produit des repas à destination d'établissements scolaires. On a une activité de restauration collective. Et en fait, notre métier, c'est de cuisiner dans nos restaurants, engagé parce qu'on a des approvisionnements responsables. Aujourd'hui, on s'approvisionne en direct chez des producteurs. En direct, ça veut dire qu'on a 2 éleveurs, 1 maraîcher qui viennent livrer les restaurants, le site de production.
En local, j'imagine aussi.
En local, la maraîchère, elle vient de Beauvais. Donc,
le plus possible.
Voilà. Mm-hmm. On dit qu'on cuisine des produits locaux de saison, majoritairement issus de l'agriculture biologique. On n'est pas du tout exclusif sur ce dernier critère. Il y a beaucoup à débattre. C'est peut-être l'objet d'un autre podcast de Business of Bouffe sur lequel des charges de la certification bio. Donc voilà, des approvisionnements très réfléchis où on applique du bon sens plutôt que du label absolu et où on est quand même au service d'une agriculture plus vertueuse et beaucoup plus durable que celle qui nous a nourris pendant des années.
Super.
Ensuite, on se déplace à vélo. Il y a un sujet mobilité douce. Nous, depuis le premier jour, en fait, on livre à vélo. Notre activité de restauration, c'est d'accueillir les clients dans nos restaurants, mais c'est aussi de livrer des petites marmites, livrées chaudes en entreprise à vélo.
Et c'est toi qui organises la livraison, toi qui gères
exactement,
la livraison.
Exactement. En fait,
je connaissais pas encore Leroy. Mais on va y revenir après.
Leroy. Exactement. en fait, il y a 8 ans, quand on a dit on va livrer des plats cuisinés à vélo chaud, tout le monde nous a dit vous êtes complètement foufou. Mais cet engagement sur la mobilité douce, c'était une évidence quand on a créé l'entreprise. Et ça fait 8 ans qu'on est à vélo et 8 ans qu'on n'utilise pas de camion et qu'on fait tout à vélo. Et effectivement, on l'a pas fait tout seul au début et on continue à ne pas le faire tout seul parce qu'il y a des questions de volume et de poids, mais on en parlera après.
Avec des partenaires.
Voilà, il y a un autre engagement qui est sur les déchets. Nos petites marmites, on les livre chaudes, pleines chez nos clients avec des couverts de service. Il faut des assiettes. Chacun se sert dans son assiette et on retourne les chercher après le service. On les lave et on les réutilise.
D'accord.
Donc ça aussi, il y a 8 ans, ça avait l'air d'être complètement voilà, exactement. Et donc notre livreur qui fait tout ça, en fait, il est salarié chez nous aujourd'hui et voilà, il y a un poste à la clé.
D'accord.
4e engagement, c'est l'engagement social, ce qui est en restauration. Un sujet assez ouvert sur lequel il y a beaucoup d'abus et beaucoup d'exploitation. Marmite Volante, on a une politique de recrutement très inclusive à destination de ce qu'on appelle les populations chroniquement éloignées de l'emploi, comme ça se dit dans le jargon administratif. mais aussi auprès de structures en insertion. Il y a des gens qui sont en sortie de parcours d'insertion et qu'on a aujourd'hui, on a à la fois en cuisine, mais aussi dans les services administratifs et de recrutement chez des partenaires. Et puis promotion interne, gouvernance partagée. Enfin, il y a beaucoup de leviers pour amener de l'engagement social dans les fonctionnements internes de la restauration et redonner du sens à l'humain, parce que en particulier sur la restauration collective, c'est un des gros problèmes. Et aujourd'hui, sur nos établissements scolaires, par exemple, on fait venir les cuisiniers avec les enfants pour qu'ils mangent ensemble. Et
ouais. Bah, je pense qu'on fera un podcast que sur
que sur les marmites volantes.
Parce qu'il y a de quoi dire, il y a de la matière. Là.
Donc voilà.
Et toi, Héroïde, ouais.
Alors, je vais faire un petit peu plus court, je pense. Nous, on est une coopérative de livraison à Paris. On est 30 salariés avec donc effectivement une coopérative. Du coup, sur les salariés, on a des sociétaires. Ils sont...
Tous les 30, non ? Une partie non, des 30 ?
Les 22 sont... Alors, on est 22 sociétaires à voter, à partager les décisions et à organiser la société. Mm-hmm. C'est une distribution par responsabilité distribuée, on va dire. Donc, on n'est pas totalement plat non plus en termes d'organisation. Mais chacun est responsable d'un pôle de la société. Ouais. Et on est organisé comme ça depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et par contre, on a été créé en 2015. Donc c'est une entreprise que j'ai cofondée.
C'est toi, ouais, d'accord. Ouais.
Et que je co-gère actuellement.
Qui te fait évoluer vers les modèles coopératifs après, en fait.
C'est ça. Alors on avait un modèle c'était un modèle SARL, mais qui était dans les faits plutôt coopération. On était très en coopération avec les équipes. Alors on s'est monté en opposition à l'ubérisation et notamment à Deliveroo. Mm-hmm. Ouais, et au fur et à mesure, on a salarié les employés et on est passé en coopérative.
Bah super. Aujourd'hui, justement, les plats du jour, c'est Resto Paris, Resto.Paris. Donc, est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu l'idée au départ, quels sont les concepts, qui sont les personnes ou les entreprises derrière ces projets?
Alors, il y a 3 partenaires, Coopcycle, Écotable et nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, l'idée, elle est venue pendant le confinement. On voulait proposer aux restaurateurs une option de livraison et de click and collect, peu coûteuse pour les restaurateurs, enfin du moins plus juste pour les restaurateurs comparé aux solutions type Deliveroo, ouais, et ouais. Uber Eats. Mm-hmm. Le temps que ça se mette en place, bah voilà, on est en septembre. Il a fallu faire le design, faire la com, faire la partie technique. Et voilà, en septembre, on a lancé hier officiellement au Festival Omnivore.
Donc le 15 septembre, ouais,
c'est
voilà.
Ça. Mm. C'est ça. Donc nous, Olvo, on s'occupe de toute la partie logistique, de toute la livraison. Écotable, ils ont établi une charte qui régit un petit peu les conditions d'accès pour les restaurateurs, pour les livreurs aussi, à savoir du salariat, à savoir le plus de réponses vertueuses possible par rapport à ce qu'il est capable de faire en restauration.
Ouais. Donc, ouais, on va y revenir justement sur Écotable. Et le troisième acteur,
Coopcycle.
Coopcycle. Alors Coopcycle, c'est un peu particulier. C'est une coopérative de coopératives.
Donc, ouais, c'est parti. Voilà.
Okay. Alors, c'est une association de coopératives à l'échelle européenne où on mutualise des fonds pour développer des outils. Tout seul, on pourrait pas se confronter à Deliveroo, on n'a pas les moyens suffisants. Donc on s'est réunis ensemble et on a dit, et si on faisait un outil technologique, qui puisse aller sur le marché de la food tech et concurrencer Deliveroo.
Donc c'est une plateforme digitale
ouais. Issue de la mutualisation de plusieurs coopératives. De
coopératives cyclo-logistiques comme Olvo.
De cyclo-logistiques.
Et donc toi, tu es membre, Olvo est membre de Coopcycle.
On est membre de Coopcycle.
Très intéressant, je ne connaissais pas ces modèles. Mais c'est ça, justement, ça vous permet d'avoir une force des frappes similaire ou pas similaire, mais qui puisse être en compétition avec Deliveroo ou des acteurs de cette taille-là.
Alors,
quoi.
C'est ça. On n'est pas du tout similaire.
Je veux bien croire.
Mais on les a déjà un peu sentis, mais on va y revenir sur les points de différence avec les acteurs traditionnels du marché, la livraison.
Super.
Mais du coup, parle-nous de Coopcycle. Coopcycle, donc tu le dis, hein, c'est une coopérative. Donc là, concrètement, sur le projet Resto.Paris, qu'est-ce qu'ils amènent? Donc ils amènent la solution technique, c'est
ça? La partie technique. Alors ils ont une solution technique qui existe déjà d'ailleurs à Nantes, par exemple, qui est déjà distribuée à Nantes. Où des restaurateurs peuvent commander à des livreurs en coopérative.
D'accord. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Coopcycle? Il y a une marque.
C'est une marque. Chaque coopérative choisit sa marque. En fait.
D'accord. Bien sûr.
Nous, on a contribué et en financement et aussi en technologie, puisqu'on a aussi un développeur en interne.
D'accord.
À Coopcycle. Et du coup, nous, on a rajouté des features pour le projet Resto.Paris. Parce qu'il y a de la commande mutualisée. D'accord. C'est une feature qui n'existait pas avant, qui est destinée aux entreprises. Et du coup, sur un pool de 10 salariés, par exemple, chacun peut passer la commande dans un restaurant, dans le même restaurant, pardon, et passer commande en une fois.
D'accord.
Il n'y a pas de frais de livraison. Et la commande est mutualisée, en fait. On sollicite un coursier pour 10 commandes différentes.
Super.
Et du coup, eux, donc concrètement, ils amènent la solution technique. Solution technique, ça veut dire la plateforme e-commerce qui permet déjà de référencer les plats dans chaque restaurant, et ensuite la solution logistique qui va te permettre à toi, acteur de la livraison, d'avoir, je sais pas comment ça marche, le ticket pour te dire Coco va chercher dans tel restaurant et va livrer. C'est ça.
C'est ça.
Donc eux, ils gèrent tout ça. Toi, tu prends le relais à partir du moment où il faut aller chercher le colis.
C'est ça. C'est interfacé avec nos outils à nous de logisticiens. Mm-hmm. Donc on reçoit la commande, ça la fait apparaître sur une carte quelque part dans Paris. Ouais. Un dispatcher de notre équipe envoie un coursier. Et ça, comme une livraison normale après.
Et toi, c'est livraison douce, comme dit Ariane. Donc
on
c'est
a que, vélo.
Que du vélo.
Que, depuis le début, on a que du vélo.
Zéro carbone.
Zéro carbone.
Parfait.
Et justement, on est le troisième acteur de ces partenariats, de ces projets qui est Écotable. Et aujourd'hui, Ariane, tu es là un peu pour représenter en tant que membre d'Écotable. Est-ce que nous, on a fait, hein, j'invite nos auditeurs à écouter un épisode qu'on a enregistré en mars dernier, juste avant les confinements, avec Fanny Giansetto, la fondatrice d'Écotable, qui était accompagnée du chef engagé et ancien candidat top chef,
très,
Victor Mercier.
Très engagé.
Très engagé, des fiefs. Et justement, on a beaucoup parlé d'Écotable. Donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment à Écotable, je vous invite à écouter cet épisode. Mais Ariane, est-ce que tu pourrais rapidement présenter Écotable et aussi pourquoi tu as décidé de rejoindre le label Écotable?
Parce que toi, tu es membre d'Écotable, sous-entendu.
Oui,
voilà.
En fait, on est labellisé. C'est surtout ouais. ça. Oui. La première chose, c'est qu'il ne suffit pas de payer pour être membre d'Écotable. Parce que c'est quand même une grosse différence avec pas mal d'autres labels où il suffit de payer.
Il faut être sélectionné.
Il faut être,
en fait, répondre à des critères.
On est candidat ouais. et ensuite, en fait, Écotable est un label qui évalue l'engagement durable des restaurants. L'engagement durable, il est évaluable sur pas mal de critères, sur ce qu'on met dans l'assiette, la manière dont on s'approvisionne, la manière dont on pilote les fluides de la cuisine, l'énergie, l'eau, etc. Mais aussi le type de produit d'entretien qu'on utilise, et aussi des critères sur l'engagement social, quel type de public est embauché, etc. Donc, et puis il y a ils auditent. Par exemple, sur les factures fournisseurs, il y a un audit de 6 mois de facture.
Ouais,
donc c'est quand même
ouais, cher,
exactement. Et nous, typiquement, on a 3 restaurants, ils ont fait 3 audits. C'est pas parce que Jaurès a gagné 3 macarons et Écotable que du coup ça marche avec les 3 autres, quoi. Donc et c'est renouvelé tous les ans. Mm-hmm. Donc et moi c'est ça qui m'a décidé en fait à rejoindre et à candidater. Mm-hmm. C'était le sérieux de l'analyse et avec la volonté de dire il s'agit de mettre en avant des restaurants durables. On est consommateur aujourd'hui, on a envie d'aller dépenser son argent et de manger dans un endroit qui est en accord avec ses convictions. Ouais. Il n'y avait aucune manière, il n'y avait aucun critère qui permettait, enfin, il n'y avait aucune sélection qui permettait de répondre à cette question. Donc, Écotable cherche à faire un annuaire des restaurants engagés, à la fois à Paris, mais aussi dans toute la France, mm-hmm. et mettre en avant des restaurateurs qui méritent d'être en avant et qui font autrement la cuisine, parce que je pense que c'est ça l'enjeu. Écotable montre des gens qui, des acteurs économiques qui font la restauration autrement.
Super. Et dans ces projets Resto Point Paris, est-ce que tous les restaurants doivent être forcément labellisés Écotable ou c'est aussi ouvert à des restaurants qui sont pas labellisés Écotable?
En fait, c'est très incitatif pour la labellisation. Puisque et c'est vrai qu'aujourd'hui Écotable reçoit pas mal de candidatures, mais un appel à tous les restaurateurs qui ne connaissaient pas le label, soit ont envie. Ouais. En plus, dans le principe, il y a donc un niveau de labellisation. Il y a 1 macaron, 2 macaron, 3 macaron, et il y a tout un panel de progression. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on vous dit pas c'est bien ou c'est pas bien. On vous dit ben voilà, là vous avez tant de pourcentage par rapport aux objectifs. Ouais. Et puis il y a tout un accompagnement du restaurateur pour l'aider à progresser.
Ça donne un axe de travail.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc, tous ces engagements, il y avait quelque chose d'un peu... la réflexion des labellisations Écotable, c'était de dire... Et, bon, nous, évidemment, Marguerite Volante, les livraisons à vélo, c'est un sujet qu'on connaît un petit peu, mais il y a peu de restaurants Écotable qui sont adhérents à Deliveroo. C'est une espèce de contradiction qui est c'est sûrement pas interdit par la labellisation, mais c'est clair.
C'est une question que j'allais te poser. Ouais, voilà, si un restaurant Écotable bosse avec Deliveroo, il est c'est pas interdit.
Non, parce que ça se veut pas non plus sanction.
C'est pas cohérent.
C'est pas cohérent. Après bon.
Pour l'aspect social.
Ouais, on est aussi dans un contexte de Covid et quand on est restaurateur aujourd'hui, on a besoin de chiffre d'affaires, on a besoin de clients, donc bon. Je juge pas. Au Marmite Volante, on est très anti-Deliveroo et ça fait longtemps, mais c'est une position qui est propre aux Marmites Volantes et qui ne représente pas la position du label Écotable. Et on doit aussi se respecter les uns les autres. Enfin, je pense que cette dynamique collective, elle est aussi dans le respect des choix de chacun.
Juste pour être très concret, qu'est-ce que vous reprochez justement au modèle Deliveroo?
Alors, au-delà
moi,
de...
Je te regarde, hein, Yoroid, c'est végétarien. Je sens que tous les deux, vous avez envie de répondre. Allez-y.
Je pense qu'on aurait tous les deux des choses à dire, mais...
Allez-y, c'est l'occasion.
Deliveroo, toutes les plateformes ubérisées et la plateformisation, c'est d'avoir dégradé les conditions de travail des livreurs. Et finalement, avec cette vague où maintenant, toutes les sociétés font la même chose, ubérisent ou plateformisent leurs travailleurs. Et concrètement, bah, c'est des conditions de travail qu'on trouve indécentes et qui nous font retourner trop loin en arrière.
Précaire, c'est la précarité. C'est
totalement précaire pour nous.
La perte de sécurité.
Et d'ailleurs, concernant par exemple le cas de Frichti, une entreprise qui a souhaité être vertueuse au début et salarier ses employés, elle s'est retrouvée confrontée à la concurrence et à l'ubérisation, et elle a été un peu obligée d'elle-même y passer. Parce qu'en fait, c'est dur de monter quelque chose de façon normale, c'est-à-dire en salariant ses employés, et pas de passer par l'ubérisation directement parce que ça coûte cher, ça donne plus de responsabilité à l'entreprise vis-à-vis de ses travailleurs. Et donc maintenant, c'est un peu le choix par défaut, c'est l'ubérisation.
Mais vous avez pris une autre direction qui est de créer une coopérative. Donc en fait, vous essayez de montrer qu'il y a peut-être un autre modèle qui peut fonctionner dans les cas de la livraison.
Alors nous, on a réussi à monter ce modèle en opposition. Justement parce que la coopérative implique plus d'implication, alors ouais. Désolé pour la tournure, ouais. Et plus d'implication des travailleurs, et du coup on arrive à compenser le fait qu'il coûte plus cher, enfin qu'on coûte plus cher à la société par plus d'implication et des personnes plus qualifiées.
Ils sont salariés? Non, quand on est sociétaire de cette coopérative, on n'est pas salarié.
Si, on est à la fois salarié et sociétaire.
D'accord, donc on a tout le confort social, enfin pas le confort, toute la sécurité, protection, la protection sociale, pardon, merci Daniel, du salarié. C'est et ça. En plus, on a cette implication dans la gouvernance de la structure
et des
en tant que sociétaire.
Voilà, des dividendes comme n'importe quel actionnaire d'une société.
Ok.
Et toi, d'un point de vue restauratrice,
bah,
pas
alors,
que, mais bon.
Moi, c'est amusant parce qu'effectivement, en 2012, quand on a dit on va livrer à vélo des plats cuisinés chauds aux entreprises au déjeuner, pour nous, il y avait une forme d'évidence. C'était sûr et comme on pouvait pas ubériser à l'époque, parce que 2012, c'était en fait il y a assez longtemps quand même, on pouvait pas ubériser, donc il y avait pas d'option. Nous, dans notre business plan, il y a écrit qu'il y avait un salarié. C'était comme ça. Donc, on a construit le business model en disant qu'on allait créer un poste. Et alors, au démarrage, 4 cofondateurs, on faisait tout, hein, la cuisine, la livraison. Enfin, les filles étaient en cuisine, les garçons sur les vélos au service, ben, voilà. Et c'est vrai que c'était dur, mais bon, on monte une boîte, c'est dur. Hein, ça, c'est normal. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, Olvo est arrivé et on a dit, c'est quand même pas mal de pouvoir sous-traiter, mais bon, pas sous-traiter n'importe quoi, voilà, n'importe qui et n'importe comment.
Avec quelqu'un qui partage tes valeurs.
Exactement.
Valeurs.
Et du coup, on a beaucoup travailler ensemble parce que avant de salarier vraiment quelqu'un, nous les cofondateurs on avait d'autres choses à faire que de livrer un moment, et du coup c'était bien de pouvoir comprendre que nos contraintes pouvaient s'appliquer à leurs contraintes. Nous, pour se faire livrer des repas aux marmites volantes, c'est la veille jusqu'à 16h les commandes.
D'accord.
C'est pas speedy marmite quoi. Si vous avez faim à 11h, bah, très bien, vous pouvez venir au restaurant.
Il n'y a pas de solution miracle en fait.
Donc, et eux, pour pouvoir avoir un prix qui était acceptable en course, ils nous ont dit bah, très bien, vous nous prévenez la veille. Nous, à 16h, on connaissait tous nos clients du lendemain. Donc, on pouvait communiquer à Olvo les trajets du lendemain et communiquer très en amont, puisque 16h la veille par rapport à des courses qui ont lieu le lendemain à 11h, il y a un vrai enjeu pour eux d'organisation et de logistique. Mmh. Et c'est aussi la précarisation et le fait de livrer en un clin d'œil, quoi. Aujourd'hui, la valeur de la livraison, elle a complètement disparu. Vous êtes capable de vous dire, mince, mon rasoir est cassé, je le commande sur un site à 8h du matin, à 11h, je l'ai dans ma boîte aux lettres. Mais pour rien et gratuitement. Mais enfin, ça veut dire quoi? C'est un morceau de la chaîne de valeur qui disparaît, qui a pas de valeur. Et pour moi, c'est aussi ça dans le modèle économique qu'on défend nous aux marmites volantes. C'est de dire, en fait, tous les maillons de la chaîne ont une valeur économique. Notre producteur de radis, de tomates, de carottes, il a le droit à une valorisation, pas juste de sa personne, mais de son travail. Et ben, la livraison, c'est la même chose. Et pour moi, de voir que, ben, des gens comme Olvo, Leroy arrivent à démontrer que c'est vrai qu'il y a de la valeur à cet endroit-là, qu'il y a des salaires, qu'il y a des humains et qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour avoir des produits qui sont livrés chez soi, quoi. Et je pense que l'idée de Resto.Paris, c'était un peu ça. C'était de dire, bah, non, on rend pas la livraison invisible, quoi. C'est des gens, c'est un coût, etc. Ouais. Et c'est aussi un poste créateur d'emploi. Et pas délocalisable, puisque c'est un truc à la mode de créer des emplois pas délocalisables. Ouais. Bon, là, on est en plein dedans, quoi.
Ce qui veut dire que sur la tarification, il y a peut-être en effet un point de différence énorme avec le modèle de Deliveroo. C'est-à-dire que là, vous valorisez le coût de la livraison davantage, c'est ça? Comment
alors,
ça se passe?
Ouais, alors, pour le coup, paradoxalement, c'est moins cher. Ça coûte moins cher au restaurateur.
Au restaurateur, oui.
C'est ça.
Et au consommateur.
Au consommateur non plus. En fait, ça coûte rien au consommateur.
Comment vous faites? Comment vous faites? Ça me paraît étrange, cette affaire.
Alors, juste, on revient sur le modèle restaurateur. Donc, aujourd'hui, les plateformes comme Deliveroo, Uber Eats, ils prennent une commission, on va dire, entre 20-30%.
Souvent 30%, ouais.
Et vous êtes plutôt sur 15%, c'est ça?
On est à 15%.
Vous êtes à 15%.
Et 1% sur le click and collect. D'accord. Pour la plateforme, pour financer Copcycle, justement.
Ouais, c'est ce qu'on voyait dans ces 15%, c'est 1% pour Copcycle, pour les coûts de développement de plateforme, et 14% pour les salariés de la coopérative.
C'est ça,
de
Volvo. C'est ça.
Et zéro pour Ecotable, parce que finalement, Ecotable, ils fournissent, c'est juste un listing, quoi. Ouais, voilà, d'accord, ouais, voilà.
Oui, ils font l'audit de chaque restaurant. Alors, du coup, pourquoi on est moins cher? Parce qu'en fait, on a décidé de jouer sur un curseur, sur le panier moyen. On a décidé que le panier moyen, ou le panier minimum plutôt, il serait pas de 15 euros comme sur Deliveroo. Mmh. On va pas se faire livrer un burger pour une personne.
Ah ouais, d'accord, je vois.
Mais on va se faire livrer le minimum qu'on souhaite à terme. Pour l'instant, on a un peu baissé le minimum.
Il est à combien ce minimum? Ouais.
On souhaiterait du... Il est à 35 euros, mmh, minimum de commande.
C'est ce qui est les repas, on va dire, pour deux personnes, plus ou moins, quoi, deux, trois.
C'est ça.
Oui, et puis qui permet de couvrir un vrai coût, quoi. Enfin, je veux dire, oui, parce que si un plat à 15 euros, le vrai coût pour se le faire livrer, c'est 10 euros, bah, en fait, personne va se faire livrer un 25 euros.
Sinon, il y a un problème, c'est que le livreur n'est pas payé, ouais, donc on comprend. Ouais.
Mais alors, pour préciser, entre 35 et 80 euros, il y a un coût supplémentaire pour le destinataire, pour le client, qui est de 5 euros.
D'accord.
Au-delà de 80 euros, donc nous, c'est vraiment le marché qu'on vise, c'est les commandes de plus de 80 euros, et c'est vraiment des commandes mutualisées pour une entreprise, notamment le midi, le déjeuner du midi. Là, il n'y a pas de frais de livraison. Donc, on prend 15% restaurateur. On a une commande de 80 euros qui est gratuite pour les destinataires. Et du coup, l'idée, c'est que l'outil permette de co-commander à plusieurs. Je ne sais pas si vous avez une chaîne Slack, par exemple. Vous pouvez envoyer « Hey, les gars, est-ce qu'on mange, à cet endroit aujourd'hui ?» On envoie un lien, ouais, et chacun commande, ajoute au panier, et ça fait une commande mutualisée.
Et du coup, on atteint le minimum.
Et quel est les délais, combien de temps en avance on doit passer la commande pour qu'elle soit prise en compte? Parce que là, sur Slack, on ne peut pas faire ça dans la matinée pour le midi, il faut faire ça peut-être à la veille.
Bah, on peut se dire, alors il faut s'organiser un petit peu, c'est vrai qu'il y a une contrainte. En fait, c'est ça, on ajoute de la contrainte à l'utilisateur. Bien, ouais. On dit « commandez avant 10h30 ». Donc, mettez-vous d'accord. Avant 10h30, vous passez la commande groupée et comme ça, vous êtes livré à une heure pile à midi, oui, avec un service qui est de meilleure qualité, parce que nous, on a le temps de prévoir, on a le temps de prévoir nos passages et d'organiser, d'économiser du coup. C'est pour ça qu'on peut être moins cher. On n'a pas besoin de prendre 30% restaurateur plus 3 euros au client.
Ouais, pour pas couvrir ces pertes-là.
C'est ça.
Et ça, c'est un sujet qu'on évoque souvent dans nos podcasts, c'est que de toute façon, la transition, les changements, ils vont commencer quand même, pas commencer par les consommateurs, mais les consommateurs, il y a un acteur très important de ces changements-là. Donc si les consommateurs ne changent pas sa façon de consommer, ça va être difficile pour que derrière, les systèmes, ils changent aussi.
Mais il faut l'éduquer.
Il faut l'expliquer.
Voilà. Ce que fait Deliveroo, il faut l'expliquer. Comme disait Ariane tout à l'heure, pourquoi Deliveroo valorise pas la livraison.
Bien sûr.
Il faut réexpliquer au consommateur, un livreur, il a de la valeur et qu'il faut justement y mettre de l'argent et le financer. Donc si on résume, on essaye de résumer, la différence avec ces acteurs-là, au-delà évidemment de l'accès à un certain type de restaurant, ça va être évidemment l'impact social, enfin voilà, et par contre, la contrepartie pour répondre à ça, c'est qu'il faut un petit peu plus anticiper, c'est-à-dire qu'évidemment, voilà, 2 heures, et qu'on a un minimum de commandes qui est un peu plus élevé, mais si on accepte ce jeu-là, et ça a priori en vaut clairement la chandelle, c'est le même service.
C'est ça. Et donc, pour le marché existant des commandes d'entreprise, donc là, on révolutionne rien. Il y a des entreprises qui commandent quotidiennement des repas pour leurs salariés. Bon, un peu moins depuis qu'il y a le Covid et qui sont tous en télétravail.
Bien sûr.
Mais on espère que ça va revenir.
J'espère aussi.
Donc, déjà, on veut adresser ce marché-là. Ouais. Donc, des commandes d'entreprise.
Plutôt des groupes, ouais. Voilà. Groupes entreprises.
C'est ça.
Les écoles, c'est
vraiment un autre business.
Oui, oui. Puis c'est des règles particulières.
Et en termes d'offres de restaurants, en fait, sur la plateforme, aujourd'hui, il y a combien de restaurants? Quel type de cuisine?
Alors aujourd'hui, je crois, au moment où on se parle, il y a un peu moins de 10 restaurants.
D'accord.
Qui ont été aussi, à qui on a demandé d'être un peu pilote pour essuyer les plâtres, si j'ose dire. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de plâtres d'ailleurs, mais nous, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu quelques commandes. Enfin, je veux dire, c'est assez fluide. On n'a rien raté, etc. Et c'est vrai que, c'est surtout que ça couvre aussi des périmètres géographiques différents. Parce que il y avait aussi la question de se dire, alors en fait, je suis au fin fond du 14e, mais je commande un burger qui a été fait au fin fond du 18e et je paye un livreur pour traverser Paris avec mon burger. Donc, il y a aussi une question de se dire quel est le périmètre de livraison
On n'en a pas parlé, oui. Ouais. C'est quoi le périmètre? Alors, quelle est la limite?
Alors, actuellement, c'est 3 km, mais du coup, nous, on veut inclure les restaurateurs à travers Ecotable et les restaurateurs en direct. On veut les inclure dans ce choix-là.
Ouais.
Nous, on juge, actuellement, on a jugé que 3 km, c'était suffisant, qu'il y avait assez d'offres autour d'une entreprise pour qu'elle s'en satisfasse.
Je m'en rends pas compte, 3 km. Ouais, Paris, ça fait quoi?
Ouais, combien tu mets, toi? Bon, toi, on a vu ton vélo.
Toi, t'es balèze.
Tu vas vite.
T'es costaud, t'as des cuisses comme ça.
ça doit faire 15 minutes. C'est la moitié de Paris, quasi.
15 minutes, quoi.
La moitié de Paris.
D'accord. Donc, autour des 15 minutes de chez nous, on peut trouver un restaurant qui nous livre.
Et aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup moins que dans une offre Deliveroo. Évidemment, vous vous connectez sur Deliveroo, vous pouvez, il y a pas 50 options, mais au moins 30 burgers avec des variantes assez subtiles, autant de pizzas, et bon, voilà. Là, à ma connaissance, il n'y a pas encore de burgers, en tout cas pas format viande frites. Il y a des acteurs plutôt végétariens, mais il y a aussi des pokéballs, il y a des plats du jour, en fait, qui sont aussi des plats dont le contenu est engagé. C'est-à-dire que c'est pas que végétarien, il y a aussi de la viande. D'ailleurs, au Marmite Volante, on a tous les jours une offre de plats de viande et de plats végétariens. Donc, on revendique une diversité d'offres et il n'y a pas de produits qui sont interdits. En fait, c'est pas ça la question. C'est plutôt d'être sur la provenance,
d'être propre.
L'alimentation durable, comme on l'avait vu.
Exactement.
Il n'y a pas d'anguille, c'ce que nous avait appris Victor.
Non, tu peux avoir
je sais plus pourquoi, parce que l'anguille.
Tu n'auras peut-être pas trois macarons. C'est
ça. Ah, non, parce que les anguilles, elles viennent de loin.
Surtout le restaurant de Victor Mercier, il est ultra sélectif.
Bah lui, non, c'est pour ça que je disais faire
c'est classe. Mais c'est justement, c'est que pour les consommateurs, c'est rassurant, c'est qu'ils savent que les restaurants à la base, ils adhèrent à Écotable, donc du coup, d'un point de vue sourcing, social, plein d'autres choses, ils sont très engagés. Et ensuite, la solution des livraisons qui a été choisie, sur la solution qui est aussi engagée sur les plans sociaux. Donc vraiment, si on souhaite passer une commande, bah, on sait que là, on risque de faire moins mal à la planète et au système que si on fait ça à côté sur notre plateforme. Quoi.
Ouais, même de soutenir des acteurs qui font du bien à la planète.
Voilà.
Ça, et que c'est très cohérent. Il y a quelque chose de très cohérent et c'est aussi, je pense, vis-à-vis des consommateurs, quelque chose qui est important en termes de compréhension et de message. On n'est pas parfait. Mais on va encore pouvoir s'améliorer. Mais il y a une question de positionnement cohérent dans nos messages entre les livreurs et les cuisiniers. C'est des gens et des humains qui méritent d'être valorisés.
100%.
Si on continue de parler de chiffres et d'objectifs, pardon, les ruches, j'ai coupé.
Vas-y, rebondir.
Ok.
Alors, du coup, c'est important pour les consommateurs, mais c'est aussi important pour les autres restaurateurs, ceux qui veulent rejoindre la plateforme. Parce que en fait, ils vont rejoindre des semblables entre guillemets, des gens qui respectent les mêmes valeurs. Et c'est aussi ça leur évoque que ça va pas être une course à la compétitivité, à qui fera les burgers les plus dégueulasses et les moins chers pour être en premier sur l'application. C'est juste tout le monde joue avec les mêmes règles et tout le monde tend à jouer avec les mêmes règles du moins parce qu'on essaie d'être inclusif avec la charte. Donc les restaurants peuvent venir tels qu'ils sont et après s'améliorer. Pour rester sur la plateforme, il faut s'améliorer. Donc arrêter les emballages plastiques à tout va, sourcer de mieux en mieux. Voilà, c'est ça l'ambition de Resto Paris, c'est de rendre les restaurants et de la charte Écotable, c'est de rendre les restaurants les plus vertueux possibles. Ils peuvent partir de loin, mais tant qu'ils s'améliorent, ils peuvent rester sur la plateforme.
Super.
Tu parlais d'ambition, justement, l'ambition en termes de chiffres, vous avez un objectif, c'est des trucs qu'on adore ici, de chiffre d'affaires, de volume, de nombre de restaurants.
Alors, c'est assez expérimental. On se lance, on a une toute petite équipe. Chez nous, on est deux. Chez Écotable, ils sont trois, entre trois et deux personnes.
Quand tu dis deux, c'est-à-dire deux alloués à ce projet. Ouais.
Donc, une toute petite équipe. Pour l'instant, on veut qu'il y ait de l'attraction, on veut qu'il y ait des commandes, on veut tester le modèle et faire les pivots qui seront nécessaires si jamais
on ajuste.
Voilà. Peut-être qu'on a mal évalué que le 80€, c'est trop. Le 80€ de commande minimum. C'est trop.
C'est peut-être une barrière un peu trop élevée. Ouais.
C'est ça, surtout en ce moment, vu qu'il n'y a pas d'entreprise avec les salariés ne sont pas dans les entreprises.
Ils peuvent regrouper les commandes.
Voilà. Du coup, là, c'est testé. C'est vraiment du test parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'outils pour AB tester, on n'a pas de panel consommateur, on n'a pas de. Voilà, on teste.
Mais vous n'avez pas travaillé sur des chiffres, des objectifs, faut faire X commandes par mois ou on souhaiterait faire X 1000 euros de chiffre d'affaires pour justifier l'investissement et les temps passés sur le projet.
Daniel, il veut voir le business plan. Là.
Voilà, on a un prévisionnel. on a un prévisionnel comme tout projet. Là, ce mois-ci, par exemple, en septembre, on souhaiterait avoir une trentaine de commandes.
Par jour ou sur les mois?
Sur le mois.
Ah bah, ah ouais, c'est pas très ambitieux.
C'est pas très ambitieux.
Bah, que chez Smartfood, on va vous aider là.
Mobilité douce, croissance douce. Voilà. On n'est pas slow dans la possibilité.
Le temps de caler le truc, d'avoir une offre nickel, de caler les minimums de commandes.
Voilà, on va avoir de l'impact. Mais pour l'instant, on a 30 salariés. 30 salariés qu'on peut mobiliser une heure et demie peut-être sur le créneau du midi. Donc, on ne va pas pouvoir produire non plus 1000 courses par midi. On n'est pas Deliveroo. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des courses les plus qualifiées possibles, c'est-à-dire les plus grosses commandes possibles, des commandes à 100, 200 euros, et non pas de servir 1000 courses comme Deliveroo, mais 1000 repas en 100 courses peut-être.
Ouais. Mais tu sais qu'on va diffuser l'épisode vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, donc je te recommande à prévoir quelques livreurs en plus, là, parce qu'on va exploser.
Bah, tu nous le diras, ce sera bon signe.
En fait, toujours la blague, c'est jamais vrai.
Alors, j'espère qu'on a un petit peu d'impact quand même.
On a un plan pour changer d'échelle éventuellement. C'est-à-dire que si on a beaucoup de commandes, on prévoit de faire une CAE, une
CAE.
Alors j'ai perdu le...
Vas-y, on a le temps.
En gros, ça permettrait de salarier des auto-entrepreneurs. Alors, mais ouh sur là des, là temps, là des là temps...
Alors salarier des auto-entrepreneurs.
C'est-à-dire avec les avantages du salariat, ouais, mais sur des temps courts. C'est-à-dire que sur 2 heures le midi, par exemple.
D'accord.
Coopérative d'activité d'emploi, pardon. D'accord. C'est ça, CAE.
Ouais.
Sur un temps court, on pourrait les salarier avec les mêmes avantages qu'un salarié.
Sur une durée déterminée.
C'est ça.
Et je connaissais
pas. Un temps partiel. Ouais, d'accord.
Super. Et juste une question. On a vu qu'il y a les soutiens de la mairie de Paris par rapport à ces projets. C'est quoi concrètement? Ils apportent quoi dans les projets?
Alors, pendant le confinement, on était tous. On savait pas quoi faire. Comment on allait sortir ce projet assez vite. Du coup, on a sollicité la mairie de Paris. On leur a demandé une enveloppe avec Cotam. On leur a demandé voilà, nous, on a une personne à mettre en full time sur le projet. On a un développeur à payer en plus pour faire des améliorations sur le logiciel qui existe déjà. Et donc concrètement, on a demandé 30 000 euros. Mmh. On a obtenu.
C'est une subvention, ça a pris quel format?
Ouais, c'est ça, une subvention. Ouais. C'est une subvention. Et comme ils ont jugé le projet vertueux et qui serait d'intérêt public au final, et qui sont quand même assez anti-ubérisation à la mairie de Paris.
Ouais. Il y a un gros sujet sur le vélo actuellement. Encore. Ouais.
C'est ça. Donc là, on fait du vélo et on aide les restaurateurs. Et pour le click and collect et pour la livraison, ça a coché toutes les cases, si vous voulez, d'une subvention, et donc on l'a eu assez vite d'ailleurs.
Et au-delà de la subvention, il va y avoir un suivi, un support financier durable, ou c'était juste un petit...
On vise la rentabilité à court terme. Ouais. C'est aussi ça le modèle, c'est-à-dire qu'on n'est pas une startup avec beaucoup de fonds. Comme Olevo d'ailleurs, on a commencé, on a toujours été rentable. On n'a jamais... investi massivement, en fait on n'a jamais emprunté d'argent, on n'a jamais fait de levée de fonds, tout s'est fait de façon organique, quand on le pouvait, comme on pouvait. On est passé de 0 à 30 salariés, de un box à 1000 m² dans le 18e, tout ça de façon organique. Il n'y a pas eu de levée de fonds, d'emprunt, ni même de subvention avant très récemment la subvention qu'on vient d'évoquer. Tout s'est fait de façon organique à la sueur des mollets.
Et l'objectif, c'est vraiment d'être rentable. Avec les chiffres que tu as annoncés tout à l'heure, le fait de prélever 1% au restaurateur, 14% sur les commandes, ça doit prendre en compte tous les coûts avec les contraintes que tu évoquais tout à l'heure, qui permettent du coup d'être rentable. Ok.
Super. Et du coup, quels sont on aime beaucoup poser la question par rapport à la suite, par rapport à votre vision. Je sais que vous venez de démarrer, donc vous.
Ça fait deux jours.
Voilà, c'est un peu tôt. Vous êtes toujours en mode test.
Comment vous l'imaginez dans 5 ans?
Non, mais il y a quand même une vision à chaque fois.
J'espère.
On se projette dans l'avenir. Et vous, c'est Resto.Paris, c'est quoi pour toi, pour vous deux, l'image idéale de ces projets d'ici une année, deux ou trois? Et c'est aller vers d'autres villes, c'est livrer d'autres produits. Comment vous imaginez la suite?
Et d'écraser des livrons.
Alors, on va faire notre part, on va dire,
ouais,
pour écraser des livrons. Mais pour l'instant, ce sera sur un petit segment. Mais le segment le plus rentable pour des livrons. Parce que quand il vous livre une course à 100 euros, le coursier, il va gagner la même somme d'argent. Mais par contre, le restaurateur, il va toujours être ponctionné 30% de la commande.
Ouais, c'est clair.
Du coup, c'est le marché le plus intéressant pour des livrons et c'est le marché qu'on va prendre en premier, si je veux dire. Bon, on verra par la suite. Alors, la vision, c'est d'aller voir une très grosse boîte comme Mythic, par exemple, qui a un plateau de 200 salariés. C'est des exemples inventés.
J'aime bien Mythic, là, je ne connais pas Mythic.
Non, parce que Mythic, on les livre souvent, ils ont des bureaux dans Paris, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Mettons que sur les 200 salariés, il y en ait 40 qui commandent quotidiennement, je dis bien quotidiennement, sur Resto.Paris, et qui s'en servent un peu comme une cantine d'entreprise décentralisée, qui reposerait sur les restaurants du quartier.
Ouais.
Et en fait, tous les jours, on va là-bas. Donc, tous les jours, on peut profiter de notre présence là-bas pour peut-être amener des consignes en même temps qu'on va livrer les plats des restaurants. On va les livrer sous consigne, on va les récupérer, faire en sorte qu'il y ait une logistique de lavage et que les plats soient du coup automatiquement consignés pour ce genre d'entreprise. Et qu'on enlève les déchets plastiques. C'est une autre fonction de...
Et je pense que là, il y a une vraie opportunité business. Du coup, Ariane nous parlait des cohérences. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui deviennent des entreprises à mission, qui souhaitent être acteurs des changements, plus engagés. Je pense que c'est à cette entreprise-là aussi de prendre l'initiative et de dire, je souhaite que mes employés, ils commandent plutôt chez Resto.Paris que...
Chez Deliveroo.
Qu'ailleurs.
Ouais, ouais.
Et je pense que là, vous avez quand même des opportunités intéressantes parce que...
Oui, après, je pense qu'un des moins incitatifs, c'est aussi les tickets resto. Hein. Soyons clairs, c'est des entreprises qui distribuent des tickets restaurants à leurs salariés. Okay. Et du coup, il y a des partenariats avec des tickets. Bon, en plus, maintenant, ça se dématérialise, etc. Donc, l'ensemble des émetteurs de tickets restaurants dématérialisés, ils ont eux-mêmes des plateformes. Enfin bon, il y a tout un sujet autour de comment on nourrit des salariés. Aujourd'hui, nous, on reçoit des demandes, par exemple, au Marmite Volante, de gens qui nous disent, nous, on a 50 salariés, on voudrait un repas Marmite Volante toutes les semaines et c'est l'entreprise qui paye, quoi.
Top, ça.
Donc, il y a bien effectivement une volonté de de petites entreprises, mais aussi, je pense, de plus grands groupes, hein, parce que 200 personnes sur un plateau, ça commence à faire pas mal de monde. Il y a une vraie volonté, et les entreprises, aussi pour leur marque employeur, en fait, au-delà du ticket resto, si elles disent c'est un ticket resto, mais qui vous donne accès à une plateforme qui est dans la restauration durable, c'est local, c'est en bas de chez vous, et en plus, vous pouvez aussi aller dans ce resto-là si vous avez envie de sortir et d'aller au restaurant. Enfin, il y a tout un discours, effectivement, qui peut être lié à l'incitation des entreprises à être partenaire de Ticket Restaurant et de la plateforme.
Super. Bah, c'est très clair.
C'est très clair.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire qu'on ne vous a pas demandé?
Profitez du micro.
Parce que là, on arrive à la fin du podcast. Donc,
voilà, c'était juste, j'aurais continué un petit peu sur les entreprises.
Bah, vas-y.
Et Resto.Paris, il y a une vraie stratégie B2B derrière, de proposer des abonnements à ces entreprises qui, justement, souhaitent avoir une marque employeur plus prononcée, avoir intégré des budgets RSE peut-être à la commande de repas, à la déplastification des repas, parce que je pense que si on va à une grosse entreprise de la défense par exemple, ils doivent avoir des poubelles remplies d'emballages Deliveroo, remplies de plastique. Et là, l'idée, c'est que on va s'adresser à eux directement, leur dire assurez-nous 80 euros de commandes par jour, proposez notre service à vos salariés, en échange de quoi, nous on s'assure que votre service de consigne fonctionne. On sera là pour les ramener, les centraliser, les faire laver, les ramener au restaurateur quand ils en auront besoin pour vous livrer.
Cycle, ouais. Voilà. Okay. Bon, Ariane, vas-y.
Ouais, moi je dirais qu'on a beaucoup entendu d'injonctions sur le monde d'après, il faut se réinventer, etc. En fait, il y a des acteurs, ils inventent le monde d'après depuis des années. On n'a pas attendu le Covid pour faire du vélo, on n'a pas attendu le Covid pour acheter en local. Et je trouve ça bien que Écotable, que vous, qu'il y ait de plus en plus de gens qui mettent en valeur ces gens-là. C'est nous qui portons le futur de la restauration et des chaînes de valeur avec la livraison dans le monde d'après. Ça fait un moment qu'on l'invente, on a besoin d'être mis en avant. Donc merci de nous avoir donné la parole.
À vous. Et tant mieux, c'est un sujet qu'on a beaucoup couvert dans ce podcast. Si on voit que cette crise, malgré tous ces malheurs, permet à ces choses de bouger plus vite. C'est vraiment un accélérateur de cet endroit.
On l'espère.
Donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. On va suivre ça de près.
Oui. Et merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.